Et oui, accrochez vos ceintures car cet après-midi, c'est une longue route galactique que nous allons emprunter pour découvrir une toile d'araignée formée de centaines de milliers de galaxies. Nos invités en sont les spécialistes et leur travail consiste à naviguer sur les flots cosmiques. Ce sont des explorateurs de nouveaux mondes, ces mondes dont la taille peut atteindre les 500 millions d'années-lumière. C'est vertigineux. Dossier de la tête au carré consacré donc aux galaxies et j'attends dès maintenant vos messages sur le site de l'émission. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science aujourd'hui, une découverte autour des petites usines de nos cellules, ce sont les mitochondries.
Oui Mathieu, parce que contre toute attente, les mitochondries jouent un rôle important dans les mécanismes de la mémoire. Une découverte importante sur notre cerveau que l'on commente avec le biologiste Giovanni Marsicano.
Et puis comme tous les jeudis, nous retrouvons la chronique de Dominique Dupagne consacrée aujourd'hui à la taille des enfants. Stéphanie Texier est aux commandes de cette tête au carré qui a été préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Voyage sur les flots de galaxies, c'est donc un livre qui sort chez Duno et dont vous êtes l'auteur, Hélène Courtois. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et puis à vos côtés se trouve l'astrophysicienne Françoise Combes qui signe la préface de votre ouvrage. Bonjour,
bonjour.
Françoise Combes. Hélène Courtois, avec une équipe de scientifiques, vous avez découvert en 2014 notre nouvelle adresse dans l'univers. Cette adresse s'appelle l'Aniakea. Là où nous habitons, dans notre petite voie lactée, si je puis dire, c'est justement au sein de l'Aniakea.
Voilà, alors notre galaxie, la voie lactée, fait partie d'une plus grande structure dans l'univers que l'on a cartographiée.
Françoise Combes, notre galaxie, justement, elle se trouve au bord de cette chevelure galactique.
Oui, au bord, hein, on est presque en train de tomber de l'autre côté. Enfin, bon, finalement, on va tomber quand même dans l'Aniakea.
Et quand est-ce qu'on va tomber de l'autre côté?
Non, finalement, on va vraiment vers le grand attracteur.
Ah ouais. Alors justement, on va en discuter avec vous. C'est une découverte très très importante, justement, ce super amas de galaxies, annoncé donc en 2014 dans Nature. Et c'est l'objet de cet ouvrage. On en discute ensemble dans quelques minutes avec les questions des auditeurs. Elles sont des centaines dans chacune de nos cellules. Elles fournissent toute l'énergie nécessaire à leur fonctionnement. Elles possèdent leur propre ADN. Les mitochondries sont également impliquées dans les processus de mémorisation dans notre cerveau. Et c'est ce que vous venez de démontrer, Giovanni Marsicano. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au Neurocentre Magendie à l'Inserm de Bordeaux et vous êtes co-auteur de ces travaux parus lundi dans la revue Nature. Alors, les mitochondries, est-ce qu'on a bien résumé ce que c'était? Au fond, c'est ces petites usines à cellules?
Oui, ce sont des organelles, comme on l'appelle, qui transforment l'énergie et l'oxygène dans des molécules qui sont utilisées par la cellule pour faire tous les processus nécessaires à la cellule.
Alors, cette découverte du rôle des mitochondries dans la mémorisation, vous l'avez faite en étudiant l'effet du cannabis sur la mémoire des souris. Expliquez-nous un petit peu votre expérience.
Oui, déjà en 2012, on s'était aperçu que les récepteurs du THC, qui est le principe actif du cannabis, qui s'appelle CBA, il est présent aussi pas seulement sur la membrane externe des cellules, mais aussi sur la membrane des mitochondries. Et à ce moment-là, on savait pas bien, on savait qu'elle était là, qu'elle était fonctionnelle, mais on savait pas bien à quoi ça servait. Alors on a mis au point des outils génétiques et pharmacologiques pour voir, pour disséquer un peu la fonction de CB1 sur la mitochondrie par rapport au CB1 sur la membrane. Et on s'est aperçu que les effets sur la mémoire dans les souris, ils sont plus présents du THC, ils sont plus présents si on n'a pas les récepteurs sur la mitochondrie. Ça veut dire que l'activité de la mitochondrie altérée par le THC participe directement au processus de mémoire.
Ça veut dire que vous avez drogué certaines souris et d'autres pas alors?
Oui, on a drogué certains souris et d'autres pas, et certains des souris qu'on a drogué avec le THC, il avait les récepteurs sur la mitochondrie et autres ils l'avaient pas. Et on a vu les effets sur la mémoire, sûrement dans les souris injectées avec le THC qui avaient les récepteurs sur la mitochondrie.
Quand on regarde le comportement d'une souris, comment on fait pour savoir si elle a perdu la mémoire ou pas?
Bon, il y a plusieurs tests classiques qui sont utilisés. Bien sûr, on ne peut pas demander à la souris si elle se rappelle ce qu'elle avait vu.
C'est compliqué.
Mais on peut observer les comportements. Dans notre cas spécifique, on a utilisé un test aussi très classique. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance d'objets. On a exposé les souris à deux objets identiques. Et après, le jour d'après, on a changé un objet. Et les souris, ils ont la tendance à explorer plus les objets, les choses qui sont nouvelles pour eux.
Donc ça, c'est à l'état normal, c'est sans avoir pris de cannabis.
À l'état normal, ils n'explorent plus l'objet nouveau. Et s'ils explorent le vieux objet et le nouveau objet dans la même façon, ça veut dire qu'ils ne se rappellent pas que l'objet vieux, il était déjà connu. Et comme ça, ça montre l'effet qu'ils n'ont pas de mémoire. Comme ça, en condition normale, une souris normale explore plus l'objet nouveau. Une souris qui a une perte de mémoire, il va explorer les deux objets pour le même temps.
Est-ce qu'il faut, Giovanni Marsicano, une certaine dose justement de ce principe actif du cannabis pour déclencher ces pertes de mémoire chez la souris? Il faut y aller vraiment à haute dose ou pas?
Oui, dans ces cas-là, on a utilisé des doses qui sont plutôt hautes. Ça, c'est aussi intéressant parce que les effets du THC sont souvent biphasiques. Ça veut dire que des doses plus faibles ils peuvent donner un effet et des doses plus hautes ils peuvent donner un effet contraire. Et une des idées qu'on a, c'est peut-être que ce récepteur mitochondrial peut-être s'est impliqué dans les effets avec des doses hautes. Mais ça, on ne l'a pas encore bien investigué, c'est une hypothèse sur laquelle on travaille.
On l'a rappelé au début de la discussion, les mitochondries, c'est les usines à énergie de nos cellules. Est-ce que c'est à cause d'un manque d'énergie disponible que la mémoire est perturbée par le cannabis?
Ça, c'est une très bonne possibilité, parce que le métier principal des mitochondries, c'est de produire cette molécule qui s'appelle ATP, qui sont utilisées par la cellule pour travailler. Comme ça, ce sont les molécules énergétiques. Mais c'est vrai aussi que la mitochondrie fait beaucoup d'autres choses dans la cellule. Et encore, on ne sait pas bien exactement c'est quoi le mécanisme après la mitochondrie qui est impliqué dans la perte de mémoire induite par les THC.
Une question qu'on aurait peut-être dû vous poser plus tôt, mais est-ce que ces récepteurs au THC, donc le principe actif du cannabis, sont les mêmes chez la souris et chez l'homme?
Ils sont similaires. Il y a très petite différence dans la séquence. Comme ça, c'est très bien conservé entre les espèces. Dans les mammifères, il y a très peu de différence entre les différents récepteurs.
Est-ce que justement on peut extrapoler à l'homme aujourd'hui ou pas en fonction de ses travaux sur la souris?
C'est toujours difficile de faire un lien direct et absolu entre la souris et l'homme, mais bien sûr, si on sait par exemple que le THC, le cannabis, il peut induire des problèmes de mémoire dans l'homme. Comme ça, les modèles de la perte de mémoire induite par le THC dans les souris, c'est quelque chose qui ressemble suffisamment proche à la situation dans l'homme.
Est-ce que d'autres effets du cannabis pourraient être expliqués par l'étude des mitochondries? Je pense à l'augmentation de l'appétit ou aux effets antidouleurs.
C'est des possibilités. Et bien sûr, cette découverte qu'on a fait en 2012 et maintenant on a un peu avancé sur ça, c'est ouvre quelque chose de nouveau parce qu'il n'y avait pas de récepteurs de type du même type de CB1 qui a été décrit avant sur la mitochondrie. Comme ça, l'idée que des autres effets du système du THC du cannabis peuvent dépendre de la mitochondrie est là et on va l'explorer. Une autre chose intéressante serait de savoir d'un point de vue physiologique, indépendamment de l'administration de cannabinoïdes, de THC, si la fonction physiologique du récepteur CB1 sur la mitochondrie joue des rôles importants, et ça on va les faire dans les prochaines années.
Bon, bah, vous avez encore du pain sur la planche, alors, et vos pauvres petites souris n'ont pas fini de bosser, j'ai l'impression.
Oui.
Merci beaucoup Giovanni Marsicano, directeur de recherche au Neurocentre Magindia à l'INSERM de Bordeaux, et donc ses découvertes autour du rôle de la mitochondrie dans les pertes de mémoire associées au cannabis. Merci beaucoup à vous et Axel, à demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, l'aspartame qui favoriserait la prise de poids, cette nouvelle découverte à charge contre l'édulcorant nous vient des États-Unis. De nombreuses études avaient déjà montré que l'utilisation de ce faux sucre pour induire une perte de poids était définitivement inutile et inefficace, mais cette fois, les chercheurs vont plus loin et montrent que l'aspartame, en perturbant notre cycle de prise alimentaire et nos perceptions de la faim, favorise directement la consommation de calories, donc par voie de conséquence, la prise de poids, ce qui est un comble, à méditer lorsque vous achetez donc une boisson allégée ou sans sucre. Une nouvelle protéine de fluorescence rouge pour explorer le vivant. Depuis les années 90, l'imagerie cellulaire a fait d'énormes bonds en avant grâce à l'utilisation des GFP, des protéines fluorescentes vertes, découvertes chez la méduse. Elles permettent de visualiser en microscopie des phénomènes biologiques directement dans les cellules, mais depuis, les scientifiques cherchent de nouvelles molécules, et c'est chose faite par des chercheurs grenoblois du synchrotron qui viennent de présenter M-Scarlet, c'est son nom, une forme de protéine découverte chez les coraux, et qui permet donc de colorer les structures biologiques en rouge vif et avec une brillance bien plus importante que toutes les techniques de fluorescence actuelles. Et puis pour terminer, le crabe cocotier peut vous broyer les os d'une simple pichenette. Étonné par la force surprenante des crabes géants de l'île d'Okinawa, capables d'ouvrir des noix de coco à la seule force de leurs pinces, et bien des chercheurs japonais ont essayé de déterminer précisément la puissance disponible dans leurs pattes pouvant atteindre plus de 50 cm. Après avoir mesuré la force de 29 spécimens collectés dans la nature puis relâchés, ils concluent que leur force est proportionnelle à leur taille et que les plus gros crabes spécimens ont une puissance de 3500 newtons, ce qui correspond à 10 fois la force de vos mâchoires et qui surpasse donc celle de la plupart des animaux terrestres. Allez, voyage sur les flots de galaxies dans un instant, c'est le dossier de la Tête au Carré. Burning Bridges. Patrice.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Voyage sur les flots de galaxies, c'est donc un livre qui sort chez Dunod dont vous êtes l'auteur Hélène Courtois. Vous êtes astrophysicienne spécialisée en cosmographie, vous êtes professeure à l'université Claude Bernard de Lyon et membre à Lyon de l'Institut de physique nucléaire. Et puis à vos côtés, Françoise Combes, vous avez signé, bonjour Françoise, la préface de ce livre. Vous êtes également astrophysicienne, membre de l'Académie des sciences, professeur au Collège de France où vous êtes titulaire de la chaire de galaxies et cosmologie. Et les questions des auditeurs arrivent déjà sur le site de l'émission. Alors c'était assez marrant parce que pendant qu'on écoutait le disque. Vous étiez, Hélène Courtois, en train de donner les dernières nouvelles à Françoise Combes de découvertes qui n'ont même pas encore été publiées.
Tout
donc,
fait,
on ne va pas en parler à ce micro. Mais ça veut dire qu'il y a encore des choses là, sur le feu qui vont arriver. Parce que,
On a plein de petites choses qui sont
dans le domaine des galaxies, ça n'arrête pas, c'est ça?
Ça n'arrête pas. Ouais. Vraiment, tous les jours, je trouve quelque chose. J'étais en train de dire
vous
deux nouvelles
jours, c'est vrai
à Françoise Combes, un chiffre que j'ai obtenu hier soir et qui me brûle les lèvres.
Ouais.
Et puis, une,
c'est quoi,
une autre
ce
grande découverte.
Un scoop pour la tête au carré.
C'est un chiffre dans l'univers, 88. C'est apparemment le pourcentage de galaxies qui sont aujourd'hui sur les autoroutes de galaxies que je décris dans le livre. Là.
88, c'est le nombre
88% de galaxies qui sont en train de voyager dans ces autoroutes. Donc il y en a quelques-unes qui sont sur des routes secondaires que je n'ai pas cartographiées.
C'est vrai.
Mais
et
très
la
peu,
Voie lactée,
finalement.
Et la Voie lactée est où alors?
Ah, la Voie lactée est sur une autoroute comme ça qui se dirige vers un amas de galaxies qui en contient 1000, qui s'appelle l'amas de la Vierge. On est vraiment sur une autoroute, nous.
Ben, merci pour ce cadeau, parce que ça n'a pas été publié encore.
Ah, pas du tout, non. Ah,
donc voilà, ça fait partie des découvertes. Françoise Combes, c'est
ça
vraiment un champ d'études, les galaxies, qui est inépuisable.
Oui, oui.
Enfin,
par exemple, Virgo, c'est formidable. On obtient des tas d'informations dans Virgo. On a beaucoup d'informations.
Qu'est-ce que c'est Virgo?
L'amas de la Vierge, pardon.
Mm-hmm.
C'est du latin, on l'appelle comme ça
encore.
Et donc on découvre des tas d'interactions entre les galaxies dans ces amas, parce qu'en fait tout se passe dans les amas.
Ouais.
En dehors des amas, les galaxies sont isolées.
Ouais. Alors moi je suis très content de vous rencontrer, Hélène Courtois, parce que vous faites partie de l'équipe franco-israélo-américaine qui, en 2014, annonçait la découverte de l'Aniakea. Je me souviens très très bien quand on en a parlé dans l'émission, ce super continent céleste qui bouleversait vraiment les connaissances. Hein. Il faut qu'on comprenne un petit peu à quoi correspond justement cette découverte, parce qu'elle est très importante. Elle nous a d'abord permis de mieux comprendre notre univers, mais surtout, je dirais, d'agrandir considérablement les frontières intergalactiques.
Alors on dit extragalactique.
Extragalactique.
En fait, extragalactique, ça veut dire en dehors de notre galaxie. Mmh. Donc tout l'univers qui n'est pas lié à notre galaxie, on appelle ça extragalactique. Ouais. Et en fait, l'Aniakea, c'est la première fois qu'on cartographie, c'est la plus grande structure à laquelle appartient notre galaxie.
Ouais.
La plus grande architecture de galaxie qu'on connaisse, qui est bien cartographiée complètement. Toutes ces frontières sont connues maintenant.
C'est ça. Françoise Combes, quand justement ça a été annoncé, vous étiez au courant, j'imagine, de cette publication. Mais c'est quand même un bouleversement aussi dans notre conception même de l'univers et de notre position, nous, dans la Voie lactée, au milieu de cet amas.
Je pense qu'autrefois, on avait déjà identifié des amas, les amas même de Coma, qui ne fait pas partie de l'Aniakea. On avait des tas d'amas et on continue à en trouver des proto-amas très loin dans l'univers, mais savoir justement quel est l'ensemble, comment ils sont regroupés et quelles sont les vitesses qui les amènent les uns vers les autres, on ne savait pas.
Et puis surtout, c'est des structures qui sont en évolution. Je pense qu'on pense souvent qu'une cartographie, c'est statique. Et là, quand tout à l'heure Françoise disait, on est vraiment au bord de cette structure.
Donc
et
la
déjà,
Voie lactée. Hein.
Voilà, la Voie lactée, notre galaxie, nous, sommes vraiment au bord de ce continent. C'est un peu comme si on était sur une plaque continentale. Et puis, on est à la limite entre une plaque et une autre plaque, en fait. Alors, une chose, c'est que peut-être dans 10 ans, on dira qu'on n'est plus dans cette plaque, l'Aniakea, mais dans l'autre, la voisine, qui s'appelle, donc en latin, Perseus Piscis, ou Persée Poisson, pour nous. Parce que la cartographie, en fait, est de plus en plus précise. Et aujourd'hui, on a des grandes barres d'erreur, quand même. Donc, c'est possible qu'on soit encore, les contours de l'Aniakea soient pas très, très bien définitifs.
Donc, ça veut dire qu'il y a des super amas de galaxies absolument partout dans l'univers. Et l'Aniakea n'en est qu'un parmi tant d'autres.
Oui, alors là, en fait, c'est vraiment le premier qu'on a bien cartographié. Et surtout, on a une méthode, en fait, maintenant, pour le cartographier. Ouais. Mais ça sera valable quand on en aura cartographié d'autres. Parce que quand on en a un, bah c'est un, mais là, il faut vraiment qu'on arrive à en cartographier 2, 3, 4, 5. C'est ce qui apportera vraiment la preuve que d'autres structures comme ça sont formées dans l'univers.
Mais François, est-ce qu'on peut quantifier aujourd'hui le nombre de galaxies, tellement tout ça est vertigineux et sans limite? On voit bien qu'il n'y a pas de frontières, on est dans l'infini absolu là quand même. Hein.
Oui, enfin, on peut quand même l'estimer, hein, le nombre de galaxies. Puisque,
il est raisonnable de l'estimer?
Oui, jusqu'à l'horizon, hein, l'horizon observable, parce que vraiment, elle est peut-être infinie, mais on a un horizon dans lequel les galaxies au-delà de l'horizon ne pourront pas nous envoyer de signal dans l'âge de l'univers. Donc on a un horizon, dans cet horizon, ça fait 200 ou 300 milliards de galaxies.
300 milliards de galaxies. Et combien de l'Agnakéa alors, si on
extrapole? Alors dans l'Agnakéa, 200, 300 milliards de galaxies, c'est vraiment effectivement l'univers observable. Et l'Agnakéa contient à peu près 100 000 grosses galaxies comme la nôtre, comme la Voie lactée. Mais on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup, beaucoup de petites galaxies, les naines.
C'est ça.
Et là, dans l'Agnakéa, on estime qu'il y en a peut-être 1 million de naines.
Ouais.
Alors... qu'est-ce que je peux dire là-dessus d'autre?
Ça fait beaucoup,
mais ça fait pas beaucoup en fait. Non, c'est pour ça que j'hésitais, mais ça fait pas beaucoup parce que
tout est relatif,
parce que ce volume-là, c'est même pas un millionième du volume de l'univers observable dont parlait Françoise.
C'est ça.
Donc, j'ose pas dire que ça fait beaucoup en fait, parce que un millionième du volume qui est déjà cartographié, j'ai un peu envie de dire, on est au béaba de la cartographie réalité.
Mais conceptuellement, c'est quand même fou, non, Françoise Combe.
Oui, c'est vrai.
Petit cerveau.
Petit.
Oui, c'est ça. Et puis tout ce qui reste à découvrir et comment on peut justement imaginer l'ampleur et les dimensions. On parlait de 500 millions d'années-lumière pour l'Agnakéa. Ça veut dire quoi alors? C'est la dimension? C'est le temps pour traverser l'ensemble de cet amas de supergalaxies ou pas?
Alors du coup, si on prend le temps et qu'on voyage à la vitesse de la lumière, 500 millions d'années-lumière, ça veut dire que ça nous prendrait 500 millions d'années de voyager de part en part de l'Agnakéa. Notre galaxie, la Voie lactée, elle fait à peu près 100 000 années-lumière. Donc ça veut dire que si on part d'un bout de la galaxie aujourd'hui, et avec une fusée qui va à la vitesse de la lumière, et qu'on va atteindre l'autre bout, on met 100 000 ans. Mais l'univers observable, enfin ce rayon-là, c'est plutôt de l'ordre de 45 milliards d'années-lumière. Donc on a cartographié 500 millions, et on pourrait cartographier, si on s'y mettait, jusqu'à 45 milliards, en fait.
C'est ça.
Et c'est pour ça que je vous dis, ça fait 1% en distance, mais ça fait un millionième en volume. Parce que nous,
c'est rien du tout.
Non,
c'est vraiment rien du tout.
Mais
vous vous rendez compte comme c'est dur à concevoir ce que vous racontez.
J'ai une autre analogie. Si on voulait cartographier autour de nous, alors moi je suis lyonnaise, donc on va dire si je voulais cartographier autour de moi, disons que j'ai cartographié à peu près jusqu'au monde du Lyonnais, c'est-à-dire les premiers vignobles, le Beaujolais, tout ça. Mais j'ai pas du tout cartographié jusqu'aux Alpes ou jusqu'à la Méditerranée, jusqu'à Paris, jusqu'à l'Atlantique. Donc je ne sais pas du tout encore, je n'ai pas découvert les Alpes. Ça veut dire que mes monts du Lyonnais, pour moi, c'est des montagnes. Donc l'Agnakéa, est-ce que c'est un grand? Est-ce que c'est un petit? Enfin, j'ai aucune notion encore de la taille de toutes ces structures-là. Quand on n'en a qu'un, on ne peut pas savoir s'il est moyen, grand, petit, typique, pas typique. Il faut, pour faire des statistiques, il faut vraiment qu'on améliore ces chiffres-là. Mais on a des idées, comment les améliorer.
Françoise Combe, vous dites justement dans votre préface à quel point ces scientifiques, dont vous faites partie d'ailleurs aussi, sont des explorateurs des temps modernes.
Ah, tout à fait, oui. Je pense que Hélène a bien montré en fait, dans son livre justement comment la science se fait, comment elle a visité les groupes étrangers à Hawaï, en Australie, etc. Donc, c'est très vivant, son livre. Hein. Je pense qu'on voit bien comment la science se fait.
Le fait, justement, d'identifier, au fond, de nouveaux territoires aussi, c'est exactement ce que faisaient les grands découvreurs au 15e ou au 16e siècle. Non, mais c'est ça, franchement.
Oui, je pense que même sans les cartographier, on a déjà découvert jusqu'au Big Bang. Hein. On a déjà été jusqu'à l'horizon. Hein. On a regardé des premières galaxies qui sont un million d'années après le Big Bang. Donc c'est...
Jean-Paul demande comment les cosmographes matérialisent-ils le vide sur une carte, justement? Alors, quand vous faites une carte, effectivement, à quoi elle ressemble? C'est une carte en trois dimensions?
Oui, c'est des cartes à trois dimensions. J'ai presque envie de dire à quatre dimensions en réalité, parce qu'on a le mouvement sur ces cartes. Donc, c'est pas seulement des cubes dans l'espace, mais en plus, c'est des cubes qui ont une dynamique. Donc, comment matérialise le vide? C'est soit là où il n'y a pas de mouvement. Déjà, il n'y a pas de galaxie, puisque ce qu'on trace, nous, ce sont les galaxies. Sauf que les galaxies, c'est un peu comme des capteurs lumineux. Et en fait, c'est un peu comme si j'avais mis des chandelles envoyées sur des petits bateaux sur une rivière. Donc en fait, j'essaye de repérer la rivière avec le mouvement de ces chandelles dessus. Et les vides, Ce sont des endroits où il n'y a pas de capteurs lumineux, donc il n'y a pas de mouvement dans cette direction. En tout cas, ça n'attire pas les galaxies, elles ne vont pas dans cette direction-là. Alors aujourd'hui, j'ai presque envie de vous donner un autre scoop.
Allez, deux scoops pour le prix d'un.
Parce qu'on est en train d'écrire un article, en fait, qu'on a soumis d'ailleurs à Nature Astronomy la semaine dernière. Et on se demande si les vides, en fait, effectivement, ils n'attirent pas, mais ils pourraient en fait repousser, parce que ce sont des sous-densités.
Les vides, vous disiez ?
Oui, les vides de galaxies, les vides de matière. Donc le mouvement, en fait, on est attiré par la gravitation. Donc c'est dans des surdensités de matière, mais quand on a des sous-densités, on peut voir ça comme étant une sorte de repousseur, d'évacuateur. Donc on est en train d'analyser maintenant les vides dans la dynamique, qu'est-ce qu'ils donnent. Or ça n'était pas très bien fait, en tout cas auparavant. Et donc il faut plus s'intéresser seulement aux attracteurs et aux grands attracteurs, mais on peut peut-être aussi s'intéresser à ces petits vides ou des grands vides qui peuvent repousser. Et du coup, ils contribuent à la dynamique. Et ça, c'est une nouvelle chose qu'on entend.
Les grands attracteurs, on va y revenir tout à l'heure, parce qu'il faut qu'on explicite un petit peu ce terme. Qu'est-ce que c'est qu'un vide, au fond, dans l'univers?
Oui, c'est vrai, c'est une absence de galaxies, une absence de matière. C'est-à-dire qu'au départ, on a un univers qui est presque homogène, avec des petites fluctuations. Et on a des surdensités et des sous-densités. Donc un vide, ça va être une sous-densité. Et c'est vrai que dans les simulations numériques, ils nous disent bien comment ça se passe. On voit bien que les sous-densités se vident de plus en plus. Donc en effet, on a un effet répulsif, comme le dit Hélène, et on a les filaments, toutes les galaxies se ramassent dans les filaments et les vides se descendent de plus en plus vite. Donc en effet, dans les simulations, déjà, on a cet effet de répulsion.
Décidément, c'est l'après-midi des scoops dans cette tête au carré, puisque non seulement nous avons des informations non publiées encore dans les grands journaux d'astrophysique, mais nous avons en plus un nouvel extrait que nous n'avons jamais entendu du nouvel album de Benjamin Biolay, et ça c'est quand même épatant, ça s'appelle Horse Song, c'est la première fois que vous l'entendez.
La vie est faite de grandeur, la vie est faite de grandeur.
C'est donc une exclusivité France Inter avec ce titre qui sortira demain dans une édition collector de l'album Palermo Hollywood hors song Benjamin Biolay.
La tête carrée sur France Inter.
Et nous aussi, nous avons plein d'exclusivités grâce à Hélène Courtois et François Combes qui sont avec nous cet après-midi pour nous parler de Galaxy. Ce qui est incroyable, François Combes, c'est qu'au fond, ces réponses qui sont apportées, par exemple, par les équipes d'Hélène Courtois, ce sont des réponses à des questions qu'on se pose depuis des décennies.
Ah oui, oui, on en parlait juste hors micro. En fait, c'est plus de 40 ans qu'il y avait les 7 samouraïs là, qui se demandaient quel était le grand attracteur. Ouais. Donc on vient maintenant de le trouver.
Ça vous a marqué les 7 samouraïs,
Ah oui, Hélène Courtois? Moi, ça m'a marqué. Hein. C'est sûrement, c'est même peut-être le nom qui m'a donné envie de travailler.
Le grand attracteur, ouais.
Le grand attracteur,
pourtant, les 7 samouraïs. Pourtant, ça fout les jetons,
moi,
je trouve.
Ah bon? Le grand attracteur. Ah bah non, au contraire. Ah bah moi, j'ai l'attitude inverse. Moi, les choses que je ne connais pas, au contraire, m'attirent plus que repoussent ou me font peur.
Hein. Bah vous avez, en astrophysique, vous avez de quoi faire. Hein.
Et bah ouais, c'est ça qui est génial.
Il y a beaucoup de mystères encore. On en parle souvent avec la matière noire, l'énergie noire, les trous noirs, même si on en sait un peu plus sur les trous noirs depuis les ondes gravitationnelles. Justement, pour parler de grands attracteurs, écoutons l'extrait de ce voyage interstellaire avec l'homme de théâtre Hugues Massina et Emmanuel Montagnès, qui est auteur, et ça a été diffusé en 2009 sur Univers Science.
Aux confins de notre galaxie, des étoiles, toujours des étoiles. Certes, il y a des géantes bleues, rouges, mais derrière ce rideau, ne serait-ce pas ces halos de lumière, oui, c'est bien cela. Une joyeuse bande de galaxies dérivant dans l'univers. Oh, il paraît que nous sommes face au grand attracteur. À 300 millions d'années-lumière de nous, un amas de galaxies attire une petite partie de l'univers. La nôtre. 4 géantes vertes, dont une en pleine déformation. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. À vrai dire, il s'agit d'un véritable essaim de galaxies. Des milliers d'autres plus petites, des points se mêlant aux étoiles. Forte densité, supermasse, force gravitationnelle exceptionnelle. Il manque encore quelque chose dans cette équation, une matière inconnue à ce jour. Ce fameux grand attracteur ressemble vraiment à une énigme.
Oh là là, j'observais mes invités Hélène Courtois et Françoise Combes écouter attentivement cet extrait donc de 2009. Et c'est vrai qu'au vu des découvertes récentes, est-ce que c'est toujours d'actualité ce qu'on vient d'entendre?
C'est d'actualité quand même, les grandes lignes sont d'actualité.
Pas d'une exactitude
mais
majeure.
Mais évidemment, le grand attracteur, on vient de le découvrir.
Ça y est, ça c'est 2014. Le grand attracteur, c'est l'Aniakea, vraiment?
Alors en fait, c'est la région centrale, c'est pas l'Aniakea. Non, non, c'est... Alors, par contre, les 7 samouraïs, je voudrais revenir quand même sur ces 7 samouraïs, parce que c'est eux qui ont donc suggéré cette énigme, ce modèle du grand attracteur. C'était un modèle. Et à l'époque, il faut quand même se remettre dans le contexte. En 1985, on ne parlait pas de matière noire. En fait, l'univers, pour les cosmologues, était composé uniquement de matière baryonique, de matière normale que l'on connaît. Donc quand ils ont vu des mouvements de galaxies, toutes ces galaxies qui allaient toutes dans la même direction, leur hypothèse qu'ils ont proposée, c'était qu'il y avait un gros paquet de matière, malheureusement masqué à notre vue par le disque de notre galaxie, qui était là, mais pour eux, c'était sous forme de galaxie, puisqu'on ne parlait pas du tout de matière noire. Donc ils ont proposé. Et vraiment, ce qui est impressionnant, c'est qu'ils ne se sont pas trompés sur la distance et puis la masse globale de l'objet. Par contre, ils ont dit que c'était un seul objet sphérique. Mmh. Or, ce que nous, on a trouvé, c'est que c'est une région centrale qui attire, qui est composée de plusieurs filaments, donc plusieurs rivières de galaxies, en fait, qui convergent un peu vers un endroit. Mais ce n'est pas un objet unique, puis c'est pas sphérique, c'est un peu un vallon, c'est un peu une vallée du Nil, plutôt.
Ouais, parce que quand vous dites une région centrale qui attire, alors quand on pense au trou noir massif au cœur des galaxies, on pourrait dire, est-ce que c'est une sorte de trou noir, au fond, François Combes, ou pas du
tout?
Non,
c'est pas aussi compact, en fait, c'est un amas de galaxies. En fait, le modèle qu'on faisait autrefois, c'est un peu comme la vache sphérique qu'on fait au départ. Hein. Mmh. Les vaches sont toutes rondes, puis après on s'aperçoit qu'elles ont quatre pattes, etc. Donc là, on s'est aperçu qu'ensuite c'était un amas de galaxies, très étendu, avec un grand nombre de galaxies. Mais c'est pas aussi dense qu'un trou noir. Hein.
Ouais. Alors justement, vous avez représenté en couverture de votre livre l'Aniakea, c'est pas une photo de l'Aniakea.
Pourquoi c'est pas une photo? Alors c'est pas une photo dans le sens où on n'est jamais sorti de notre galaxie,
c'est
donc on
n'a
pas de photo. Alors non, c'est une cartographie. Enfin, ça a été retravaillé par un artiste, mais chaque ligne qu'on voit c'est des lignes de courant qu'on a calculées. Ouais. Chaque petit point, ce sont des galaxies qui sont mesurées sur le ciel.
Non, mais ça on est d'accord. Ouais. C'est pas le cliché direct en tout cas de la Niakea. Hein.
Alors c'est presque un cliché direct parce que les télescopes c'est des appareils photo, donc si on met toutes, c'est ce qu'on fait nous, hein, c'est qu'on met toutes les images prises par les télescopes, donc plein de photos prises depuis la Terre, on les met ensemble et ça nous fait la cartographie.
Et ça nous fait cette chevelure
évidemment. Il y a quand même des reconstructions. Lorsqu'il y a des trous dans les observations, il y a un filtre qui reconstruit un petit peu les trous, les manquants.
Oui, tout à fait. Alors, on a des algorithmes d'extrapolation, donc c'est vraiment la méthode qu'on a utilisée parce qu'on ne peut pas observer complètement. Françoise a tout à fait raison, c'est important de le préciser. Et justement, dans la région du Grand Attracteur, qui est une région qui est plus ou moins masquée à notre vue, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les mouvements d'un côté et puis les mouvements de l'autre côté. Et quand on et notre calcul, notre algorithme nous dit, ben, si toutes les galaxies de ce côté vont, par exemple, de la droite vers la gauche et de l'autre côté, ça continue de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche, pardon, on reconstruit que dans la région qu'on ne peut pas observer directement avec les télescopes, eh bien, ça doit continuer comme ça. Alors après, c'est compliqué quand même. Et c'est là qu'il y a des équipes, comme en Afrique du Sud, ceux dont on était en train de parler tout à l'heure, essayent avec des radiotélescopes de passer à travers notre galaxie pour essayer de cartographier quand même des régions invisibles. Ouais. Et là, c'est très important pour nous.
C'est ce que demande Farid. Hein. Comment est-ce qu'on arrive à imager une, voire plusieurs vues en dehors de notre galaxie, alors que nos capacités à observer et photographier l'immédiat se limitent pour l'instant à notre proche système solaire?
Non, je suis pas d'accord.
Optiquement, on peut regarder les galaxies. Enfin, d'ailleurs, on voit bien des galaxies comme Messier 51, qui est très bien connue. Donc, les gens le voient à l'œil.
Alors, et puis tout le monde peut prendre une paire de jumelles et puis voilà. On peut voir des galaxies avec des petits télescopes. Alors là, j'encourage tout le monde à aller voir dans des observatoires d'amateurs. On voit des galaxies avec des petits télescopes. On peut faire des photos de galaxies.
François Scombe, l'hypothèse de la matière noire, elle a émergé à quel moment justement pour expliquer cette mécanique des galaxies?
La matière noire, qu'il y a de la matière manquante, c'est 1930-40, mais le fait qu'elle soit non baryonique, c'est 1985.
Oui, donc c'est très récent là aussi.
Bah, quand même plus de 30 ans.
Oui, mais enfin bon, dans l'histoire quand même.
Oui, c'est vrai, on fait des progrès énormes et on s'en est aperçu parce que justement on ne pouvait pas former les galaxies s'il n'y avait pas de cette matière non baryonique.
Mais on a encore toujours autant de mystères autour de la matière noire.
Et oui.
Hein, pour l'instant, c'est une hypothèse solide, mais.
On commence à savoir ce qu'elle n'est pas aussi quand même. On a éliminé beaucoup de choses.
Daniel nous dit, merci de demander à Françoise Combe comment réussit-elle à justifier la permanence de rotation des galaxies à partir d'un gaz froid qui ne sort d'on ne sait où.
Alors, faut un peu nous éclairer là. Je ne comprends pas très bien la question d'on ne sait où. On sait très bien d'où sort le gaz.
Oui.
Le gaz est partout, en fait, dans l'univers. Lorsqu'il n'y a pas d'étoiles, avant de former les étoiles, il n'y a que du gaz.
Oui.
C'est le gaz hydrogène le plus important constituant de notre univers, à part la matière noire.
Qui sont apparus.
Donc c'est que du gaz hydrogène. Donc le gaz hydrogène dans les filaments cosmiques, dont on voit un petit exemple ici, les filaments sont pleins de gaz, les filaments alimentent les galaxies en gaz, et puis lorsqu'elles arrivent dans les galaxies, par collision, par dissipation, ils se mettent à tourner. Donc là, il n'y a aucun problème, 80% de la matière gazeuse est en dehors des galaxies. Et elles sont en train de tomber sur les galaxies.
En train de tomber sur les galaxies, ça veut dire quoi alors?
Mais l'univers est en évolution.
Voilà, tous ces filaments, là on voit bien dans les simulations numériques, le gaz coule et nourrissent les galaxies encore aujourd'hui.
Toutes les structures
image,
sont encore en train de se former, les galaxies grandissent en fait, les structures grandissent, l'univers a un certain degré de maturité, mais il est encore en train de mûrir, de se raffiner, de se structurer, et y compris sur ce type de carte, les galaxies c'est des petits points, mais dans les études sur les galaxies, on voit que les galaxies sont en train de mûrir et sont en train d'évoluer encore, d'accréter du gaz, de transformer ce gaz en étoiles. Les étoiles sont en train de vieillir. Enfin, l'univers est vraiment... Il faut vraiment sortir de l'image statique d'un univers...
Et pour
aussi.
Ça, vous donnez une image de pain au raisin, avant et après la levée, Hélène Courtois. Mais elle est très bonne, cette image. Elle est excellente, cette image. Expliquez-nous ça un petit peu, justement, dire que tout ça est en train de gonfler.
Voilà, c'est une... Oui, c'est en train... Donc, c'est très important de comprendre quand on dit qu'on est en train de tomber vers la Niakea et que tout ça, c'est sous l'effet de la gravitation. Il y a un mouvement inverse qui s'appelle l'expansion de l'univers. Et en fait, En particulier l'Aniakea, il est tellement grand, il n'est pas lié gravitationnellement. Ça veut dire que la gravitation et l'expansion sont deux forces qui jouent un peu en sens inverse, l'une contre l'autre. C'est un tir à la corne. Et dans le cas de l'Aniakea, c'est l'expansion qui l'emporte. Donc il va se dissiper, en fait, même si les vitesses gravitationnelles que moi je cartographie montrent qu'on tombe vers le centre de l'Aniakea et vers le grand attracteur, on n'y arrivera jamais.
Ouais.
Parce que l'expansion nous emporte au loin. C'est un peu comme si on est en train de courir dans un train qui veut rattraper une gare, mais que le train, lui, part dans l'autre sens. En fait, on ne rattrapera pas la gare.
Surtout que l'expansion est en train de s'accélérer. Donc,
oui.
Au contraire, toutes les galaxies vont...
Ah oui, l'univers va être de plus en plus noir et de plus en plus dilué. Donc, c'est maintenant qu'il faut faire de l'astronomie, si on veut voir des galaxies. Mais c'est vrai, hein.
On aura aussi des outils
c'est
de plus en plus performants.
C'est pas une blague. Ah bah là, l'expansion est vraiment accélérée. Mais pour en revenir au pain au raisin, donc si on prend l'univers comme une brioche avec des petits raisins secs à l'intérieur, avant la levée, les raisins secs sont assez proches les uns des autres. Et puis, au fur et à mesure que ce pain au raisin lève et puis gonfle dans le four, en fait, ils s'éloignent. Mais les raisins eux-mêmes ne grossissent pas parce que eux ne subissent pas l'expansion. Et ça, c'est les galaxies. Donc nous, notre galaxie, on est tellement lourd gravitationnellement que l'expansion ne gagne pas. À ce jeu-là, sur la taille d'une galaxie, c'est la gravitation qui l'emporte. Donc, vous, Mathieu, vous n'êtes pas en expansion.
Je ne suis pas une brioche.
Voilà, Françoise n'est pas, je ne suis pas en expansion, la table n'est pas en expansion, la Terre n'est pas en expansion, parce qu'on est à l'intérieur de la galaxie.
Ouais.
Par contre, dès qu'on passe dans l'espace extragalactique, les distances entre deux galaxies s'agrandissent au fur et à mesure que l'univers devient de plus en plus âgé, sauf si on est très près, parce que ça dépend de la distance. Donc, par exemple, nous et Andromède, on va se rentrer dedans. Donc...
Oui, c'est vrai. Dans combien de milliards d'années, a priori ?
Dans beaucoup,
2 milliards d'années.
Voilà.
2 milliards d'années,
c'est possible.
Mais parce que c'est deux grosses galaxies. Voilà.
Ouais.
Et donc, vous alliez pas... je crois qu'il y avait un auditeur qui parlait de qu'est-ce que le groupe local.
Oui, absolument.
Voilà. Alors, le groupe local, c'est justement ces deux grosses galaxies, nous et Andromède, et plein de petites galaxies naines. Et ça, c'est gravitationnellement relativement lié.
Oui, quand même. Il ne va pas s'arracher de
ce tout. Lui, il ne va pas se dissiper. Donc il y a des petits endroits dans l'Aniakea.
Il y a beaucoup de nuances dans ce domaine galactique. On essaie de vous suivre.
D'accord.
Allez, on se retrouve dans un instant. On termine ce dossier consacré aux galaxies avec les messages toujours qui arrivent très nombreux sur franceinter.fr. Elle nous a quittés il y a 19 ans déjà. C'est Barbara qu'on retrouve cet après-midi pour lui rendre hommage du bout des lèvres sur France Inter. Bon après-midi avec nous.
Dites-le-moi du bout des lèvres, je l'entendrai du bout du cœur. Vos cris me dérangent, je rêve, je rêve. Oh, dites-le-moi doucement, murmurez-le-moi simplement. Je vous écouterai bien mieux, sans doute. Parler du bout des lèvres, j'entends très bien du bout du cœur, et je peux continuer mon rêve, mon rêve. Que l'amour soit à mon oreille, tout comme le chant des abeilles, en été un jour au soleil, au soleil. Regardez dans le soir qui penche, la pince au poilier qui balance, quelle est jolie sa voile blanche qui danse. Je vous le dis du bout des lèvres, vous m'agacez du bout du cœur, vos cris me dérangent, je rêve. Venez donc me parler d'amour à voix basse dans ce contre-jour, et faites-moi, je vous en prie, silence. Prenons plutôt au soir qui penche la main, ce voilier qui balance, quelle est jolie sa voile blanche qui danse. Je vous dirai du bout des lèvres, je vous aime du bout du cœur, et nous pourrons vivre mon rêve, mon rêve.
Ça fait du bien. vient d'entendre Barbara sur France Inter. Hélène Courtois, Françoise Combes avec nous autour de ce livre Voyage sur les flots de galaxies. Je vous l'avais dit, il faut accrocher sa ceinture pour parcourir justement cette nouvelle adresse de l'univers, l'Aniakea. C'est chez Duno, cet ouvrage. Il y a beaucoup de questions des auditeurs. Patrice nous dit d'abord, au vu des milliards de galaxies, des milliards d'étoiles et de planètes qui les composent, n'est-il pas mathématiquement impossible que la vie n'existe pas ailleurs? Françoise Combes.
Oui, c'est sûr. Moi, je suis convaincue que la vie va exister ailleurs. Ça ne peut pas être. On n'est pas les seuls. C'est toujours le problème. On a l'impression qu'on est les seuls au monde, etc. Mais étant donné qu'il y a des milliards de planètes déjà dans notre galaxie et qu'il y a des milliards de galaxies, je ne vois pas pourquoi on serait les seuls.
Vous n'avez pas un scoop que... là-dessus, Hélène Courtois, parce que c'est l'après-midi du scoop.
Ah, j'aimerais vraiment ça, mais
d'ailleurs, oui, moi aussi.
Mais non, mais je pense vraiment comme Françoise, c'est assez malheureux qu'on n'arrive pas à recréer la vie en laboratoire aujourd'hui, parce que ça nous donnerait vraiment des clés pour pouvoir essayer de la détecter, pour connaître vraiment les conditions qu'il faut qu'on détecte, mais vraiment statistiquement, on ne peut pas imaginer qu'on soit seul.
Il y a énormément de questions à ce sujet-là. Guillaume qui dit, est-ce que l'inexistence d'autres mondes habités est toujours statistiquement crédible? Bon voilà, tout le monde se pose la question, c'est vrai que face à ce vertige. Yves demande, est-ce qu'on peut mettre en relation les structures de l'Aniakea et celles du fond diffus cosmologique?
Alors oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment les premières fluctuations de la matière qui ont créé les grandes structures. C'est les graines initiales sur lesquelles sont venues s'accréter les gaz dont on parlait tout à l'heure, l'hydrogène, et qui forment petit à petit les galaxies et les grandes structures. Alors j'aurais presque un autre scoop à vous donner
encore
à ce niveau-là.
Quelle générosité
si
allez
vous voulez. C'est un article sur lequel je suis en train de travailler avec mon équipe. Et dans le fond diffus cosmologique, il y a un endroit qui est très très froid, qu'on appelle le cold spot, c'est-à-dire le point froid de... Et on pense qu'on l'a relié effectivement à une des grandes structures dans nos cartographies. Alors ça, il faut attendre 2017. Les calculs ne sont pas terminés, mais ça serait une sacrée trouvaille de relier directement. Ce serait la première fois où on relie directement un objet sur cette carte de fluctuation et un objet connu dans l'univers évolué d'aujourd'hui. Et ça prouverait que toute l'histoire, tous les modèles qu'on a mis entre cette carte de fond et les structures qu'on a aujourd'hui, on ne s'est pas trompé.
C'est vous qui allez publier ça?
J'espère. J'espère bien être le premier auteur sur ce papier. Ouais,
bravo. Et la température, quand on parle de grand froid, c'est quoi?
Alors là, c'est 2,7 degrés Kelvin, le fond diffus cosmologique. Mmh. Mais les fluctuations dont on parle, elles sont de l'ordre de 10-5. Donc le fond diffus est assez homogène, très très homogène même. Et il faut vraiment descendre dans les 10-5 degrés pour voir ces fluctuations de température qui viennent de fluctuations de matière. C'est un petit peu compliqué là aussi.
Hélène Courtois, on parlait de voyages justement en Afrique du Sud, dans les grands télescopes, Hawaï, etc. Oui. Vous utilisez quoi, vous, comme matériel concret pour étudier tout ça? C'est des télescopes ou ce sont des ordinateurs?
Alors, à la base, ce sont des télescopes. On reçoit tous ces signaux des galaxies sous forme de lumière, que ce soit de la lumière optique ou de la lumière radio. Et ensuite, on traite toutes ces données par ordinateur sur des supercalculateurs. Mais on voyage pour aller au télescope.
Cette question de Christophe pour vous, Françoise Combes, ces espaces vides dont vous parliez tout à l'heure, repoussoirs, ne pourraient-ils pas expliquer la matière noire?
Pas tellement la matière noire, mais je dirais plutôt l'énergie noire finalement, parce que dans l'univers, 70% des contenus est de l'énergie noire et qui a justement un effet répulsif. Donc je pense que les vides sont justement, partout, l'énergie noire est partout, et dans les vides, elle agit encore plus, puisqu'elle est aidée par la gravité qui repousse d'un côté. Donc, c'est plutôt l'énergie noire. Il n'y a pas de matière noire dans les vides.
Ça, on l'a vu. Et la matière noire, vous aimeriez qu'on la débaptise, Hélène Courtois?
Vous avez toutes les audaces.
quel autre nom vous aimeriez proposer alors?
Moi, j'aime vraiment bien la matière transparente, en fait. Parce que j'aime pas bien ce mot noir. Je trouve qu'en physique, ça veut dire quelque chose qui n'est pas approprié. Quand on parle de cette matière, c'est de la matière transparente parce que elle interagit pas avec la lumière en fait. Enfin, je pense que Françoise...
c'est comme ça qu'on l'a. Oui, c'est sûr. C'est pour ça qu'on le disait noir parce qu'elle ne rayonne pas.
La matière transparente. Vous pensez qu'on va être amené à utiliser ce terme bientôt?
J'ai l'impression que c'est un petit peu trop tard. Moi, je dirais parce que puisqu'on la connaît depuis 1937 et que déjà on l'appelait matière noire, Zwicky l'appelait matière noire. et qu'on ne sait pas si elle va durer longtemps maintenant. Peut-être que dans 10 ans, on n'aura plus d'intérieur noir, donc peut-être un peu tard pour la réappeler.
Voilà, surtout si on ne la détecte pas au niveau particulier dans les grandes expériences.
On ne la détecte pas du tout, donc on a plutôt des modèles alternatifs.
Jean-Paul demande, cette cartographie de galaxies, c'est votre travail, Hélène Courtois, donnera quelle sorte de découvert, quelle piste dans les prochaines décennies? Alors là, on se projette dans l'avenir. Mais déjà, vous nous avez mis un peu sur la voie de choses intéressantes.
Il y a plein de pistes, je ne sais même pas par où commencer. Alors, en tout cas, déjà, une cartographie de base, c'est-à-dire juste agrandir la cartographie, c'est le point essentiel, parce que comme on l'a dit, on n'en est qu'à un millionième du volume à cartographier, donc dans la décennie. Ce qu'on voudrait atteindre, et puis on est assez ambitieux, c'est atteindre 10% du volume avec un télescope spatial qui s'appelle Euclid, qui est lancé par les Européens. Et les Français sont en tête de file de ce télescope spatial. Et c'est vraiment un télescope qui va permettre de faire de la cartographie et de s'intéresser à ces questions d'énergie noire.
Ouais.
Alors là, j'ai pas de mot alternatif pour énergie noire, mais je l'aime pas beaucoup non plus, ce nom-là.
L'énergie transparente, alors, non?
Ben, je sais pas.
Et le trou transparent, c'est pas terrible non plus.
Non, mais justement, les gens, ça perturbe tout le monde parce qu'on appelle ça trou noir.
On va garder noir pour la forme.
Mais non, je suis pas d'accord.
Noir, ça veut dire qu'on le connaît pas. Attends,
c'est ça. Oui. C'est l'idée du mystère.
En fait, noir, ça veut dire qu'on comprend rien du tout.
Mais c'est ça. Oui,
quand un astrophysicien vous dit noir, vous êtes déjà sur la piste que.
Il y a du boulot encore.
Voilà.
Bon, mais les choses s'arrangent quand même. On le voit avec les ondes
gravitationnelles. Mais l'énergie, en tout cas, l'énergie noire. Je dirais la matière noire en premier, si je devais faire un pari sur 10 ans.
La matière transparente.
Matière noire en premier, on comprendra, et énergie noire en deuxième.
Bien, ça me fait un bon programme pour les 10 années à venir. Déjà, c'est pas mal du tout. Voyage sur les flots de galaxies. L'Aniakea, notre nouvelle adresse dans l'univers. C'est un très beau titre, un très beau sous-titre. C'est chez Duno, Hélène Courtois et Françoise Combes. Vous en signez la préface. Merci beaucoup d'être venu dans la tête au carré.
France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne.
Attention, je vais piquer.
Il est venu nous piquer, Dominique, bonjour.
Bonjour Mathieu.
On parle beaucoup de l'obésité infantile, mais votre chronique concerne aujourd'hui la taille des enfants.
Bah oui Mathieu, je vais rien vous apprendre en affirmant que les petits sont désormais des grands. Il suffit d'utiliser les transports en commun pour constater que la taille des humains augmente à chaque génération. C'est un phénomène d'une ampleur impressionnante puisque nous avons grandi de 10 cm en un siècle.
Ça touche tous les pays a priori ou pas?
Oui, enfin tous ceux qui connaissent une croissance économique en tout cas.
Donc ce sont les riches qui grandissent.
Exactement. Et c'est vrai à l'échelle des nations puisque la taille moyenne dans les pays riches est supérieure à celle des pays pauvres. Mais aussi à l'échelle individuelle, puisque dans tous les pays, les enfants de riches sont plus grands que les enfants de pauvres. Les études historiques montrent que l'augmentation de taille démarre avec le développement économique et ralentit lorsque la pauvreté devient rare. En France, l'augmentation de taille a fortement ralenti depuis 20 ans, alors qu'elle a dépassé 1 mm par an pendant les 30 glorieuses. Alors bien sûr, la richesse agrège de nombreux facteurs, alimentaires notamment. En France par exemple, le budget consacré par une famille ouvrière à la nourriture est tombé de 60 à 15% en quelques décennies. La disponibilité en toute saison de produits variés et surtout la baisse du prix des protéines animales, la viande notamment, semble déterminant. Et puis bien sûr, le remplacement du travail physique des enfants au champ ou à l'usine par l'école, qui joue un rôle important bien sûr.
Mais est-ce que les enfants naissent plus grands?
Ben non, pas vraiment. Non. La taille à la naissance varie peu. En fait, les enfants grandissent plus vite et plus tôt. Ce sont surtout les jambes qui sont plus longues en fin de croissance et non le torse. Ah. Les humains modernes sont plus élancés que leurs aïeux, à condition bien sûr qu'ils échappent à l'obésité, mais c'est un autre sujet.
Alors les courbes de croissance, Dominique, dans les carnets de santé des enfants sont actualisées régulièrement du coup?
Eh bien non.
Ah bon?
C'est ce qui m'a poussé à choisir ce sujet pour ma chronique. Ces courbes qui sont destinées à suivre la croissance des enfants n'ont pas été mises à jour depuis 40 ans.
Oh là, oui.
Oui, 40 ans. La taille moyenne des garçons à l'âge de 18 ans est restée figée à 1m74, c'est-à-dire celle qui a été mesurée dans les années 70. Actuellement, elle se situe plutôt à 1m78, or 4 cm, ça fait une sacrée différence.
Mais alors pourquoi on utilise ces vieilles données a priori?
Ben écoutez, la raison principale, d'après une publication de l'INSERM, c'est que la crainte d'inquiéter inutilement les parents domine.
Ah
oui, bien sûr, utiliser comme référentiel la taille de son grand-père, c'est tout de suite plus flatteur. On constate le même décalage. Pour la taille des vêtements pour enfants, il faut généralement acheter du 2 ans pour un enfant de 18 mois.
Mais c'est vrai.
Mais absolument, c'est flatteur. La décision de changer appartient à l'agence Santé Publique France, qui ne semble pas pressée de mettre à jour les carnets de santé actuels. En fait, l'orgueil français n'a décidément pas de limite. J'espère que la rationalité scientifique finira par l'emporter sur la fierté du coq gaulois.
Ben oui, ils prennent soin de notre blessure narcissique. Merci beaucoup Dominique Dupagne. À la semaine prochaine, chronique réécouter évidemment sur franceinter.fr. Bonjour Fabrice Drouel.
Bonjour Mathieu Vidard.
Affaires sensibles, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui?
Des faux espions de chez Renault, c'est une sale histoire, vous verrez. Totalement immoral.
On adore.
Oui, j'imagine. Et nous en parlerons avec notre invitée Nathalie Braffman, journaliste, chef adjoint du service société au quotidien Le Monde, et qui a couvert cette affaire jour après jour.
À tout à l'heure.